Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Journée de manifestation aujourd'hui en France. Salariés, chômeurs ou étudiants, ce sont des milliers de personnes qui sont descendues dans la rue aujourd'hui à l'appel de plusieurs syndicats. Et le mot qui était sur toutes les lèvres, salaire. Avec la croissance qui repart à la hausse cette année, les entreprises qui ont engrangé des gains, plus de 100 milliards d'euros d'aide pendant la crise, pourquoi tout cela ne se répercuterait pas sur le revenu des Français? Cette redistribution des richesses doit-elle passer par une hausse des salaires ou par d'autres dispositifs? Quel dispositif? Nous en parlerons dans ce débat. Une augmentation des salaires permettrait-elle de pallier les difficultés de recrutement qui sont observées dans plusieurs secteurs, de relancer le pouvoir d'achat des Français, bref, d'assurer une reprise durable? C'est notre débat ce soir, soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour participer à ce débat, nos trois invités en studio. Denis Ferrand, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, directeur général de l'Institut d'études économiques Rexicode. Rodolphe Delacroix, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de l'activité rémunération et actionnariat salarié chez Alixio. Et vous êtes l'auteur du livre Malaise dans les rémunérations. C'est justement le cœur de notre débat ce soir. Bonsoir. Éric Ayer, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Également enseignant à Sciences Po Paris. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. D'abord, si on pose cette question d'une augmentation des salaires en France, pourquoi? Est-ce que c'est parce que les rémunérations ne progressent pas en France? Je me tourne vers vous, Rodolphe Delacroix, pour répondre à cette première question. Quelle est la situation sur ce point? Les salaires sont gelés en France? Pourquoi on pose cette question?
On est typiquement dans un cas d'opposition entre l'opposition entre la réalité statistique et la perception de cette réalité. On a appris hier par la loi de finances que le pouvoir d'achat avait augmenté de 8% depuis 2017. Donc on ne peut pas dire que la conjonction des différentes aides qui ont été mises en place depuis 2020 ou des baisses d'impôts, etc., se traduit par gel des salaires. Pour autant, la situation est très complexe, très variée, et la perception des gens de leur situation salariale est très négative. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, etc. Et donc, on a vu également avec la crise du Covid, où un certain nombre de populations apparaissaient de première ligne, apparaissaient sous-payées au regard de leur contribution sociale. Donc, on a là typiquement un hiatus entre une situation salariale qui, objectivement, statistiquement, n'est pas caractérisé par un recul ou un gel, mais des perceptions tout à fait différentes. Et on voit ça, nous, dans les entreprises. Des situations très contrastées.
Vous partagez ce constat, Éric Ayer, c'est surtout une question d'image. Les salaires en 2020, donc 2020, c'était vraiment la crise du Covid, ont malgré tout progressé d'1,4%.
Non, mais il faut oublier 2020. 2020, c'est vraiment une année qui est assez atypique. Mais sur plus longue période, effectivement, enfin, l'indicateur qu'on regarde en économie, c'est le partage de la valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a la part des salaires dans cette valeur ajoutée? Ben, globalement, depuis le milieu des années 80, il est relativement stable. Ça veut dire que lorsqu'on produit de la valeur ajoutée en France, il y a toujours à peu près la même part qui va dans les salaires et la part qui va dans les profits. C'est à peu près un tiers, deux tiers dans les salaires, un tiers dans les profits. On voit bien que, du coup, ça veut dire que les salaires progressent un peu comme la productivité, sans être trop technique. Et le problème est là. C'est-à-dire que, est-ce qu'on mesure bien la productivité? D'abord, on ne sait pas tellement s'il n'y a pas des gagnants et des perdants. Il peut y avoir des salariés qui gagnent plus que la productivité et des salariés qui gagnent moins. Et donc, il y a des inégalités qui pourraient être se nicher derrière ce constat très macroéconomique. Puis après, on peut se dire, ça a été dit, est-ce qu'on doit être payé en fonction de sa productivité? Peut-être pas. Peut-être on doit être payé en fonction de son utilité sociale. Et on a bien vu pendant cette crise, effectivement, les premières lignes, mais aussi les deuxièmes lignes, qui étaient finalement des caissiers ou des caissières ou des manutentionnaires, qui finalement étaient très utiles à la société, qui ont une productivité qui est relativement faible dans nos standards et donc des salaires faibles, alors qu'en fait, ils sont très utiles. Donc on peut se dire, tiens, mais c'est peut-être pas la bonne métrique, la productivité. Et ta part des salaires dans la valeur ajoutée, ça ne veut rien dire du tout. On n'est pas content. On a des revendications. Et ces revendications-là, elles sortent maintenant. Parce qu'effectivement, on avait promis un geste pour ces salariés-là. Bon, il n'y a pas eu vraiment de geste. Et on continue dans la routine en disant « t'es pas qualifié, donc t'es mal rémunéré ». Ça, je pense qu'effectivement, c'est une autre façon de regarder les choses. Et ce n'est pas forcément à l'économiste de trancher. Oui, c'est un choix de société. Quelle est la bonne part des salaires dans la valeur ajoutée? Ce n'est pas à l'économiste à trancher. Et quelle est la bonne métrique pour payer? Ben, ce n'est pas non plus à l'économiste. Et c'est des rapports de force. Ben là, on est en plein dans un rapport de force.
Alors, je vais citer par exemple les demandes des syndicats aujourd'hui. Je vais vous poser la question de différence que vous en pensez. Revalorisation du SMIC, revalorisation des grilles de classification des branches professionnelles, revalorisation du point d'indice de la fonction publique, des pensions, des minima sociaux et des bourses d'études. Est-ce que c'est pertinent, selon vous, toutes ces demandes?
En fait, là, c'est un
fonctionnement... On rentre pas dans la question politique, évidemment.
Non, mais c'est un fonctionnement où, effectivement, on est sur une lecture qui est générale. C'est-à-dire, on a des mesures qui ne sont pas... qui sont appliquées... à toute une catégorie de population, le relèvement du point de l'indice, alors qu'il est resté gelé pendant plusieurs années. Hein, ce qui ne veut pas dire que les salaires des fonctionnaires ne progressent pas, parce qu'il y a d'autres éléments qui participent à l'évolution de salaire. Le fait que vous changez de catégorie quand vous êtes un fonctionnaire, c'est un élément qui va participer à l'augmentation de votre salaire. Mais ce que je retiens des interventions précédentes, c'est qu'on voit aussi... On essaye de mettre en place des réponses qui sont générales, là où on voit bien qu'il y a des situations de plus en plus particulières et qui sont notamment tout à fait représentées dans ce qui se passe du point de vue des difficultés de recrutement, qui sont très marquées sur certains secteurs et qui ont un déterminant salarial dans certains secteurs, mais pas forcément dans tous. Donc la réponse qui est uniforme va se heurter à plusieurs contraintes, qui est celle de la particularité des tensions qu'il peut y avoir, d'un niveau de rémunération qui est trop faible dans certains secteurs, et dans d'autres secteurs pour lesquels il n'y a pas un problème salarial qui est installé. Donc une réponse uniforme n'est pas forcément la plus adaptée. On revient véritablement sur cet aspect fondamental. Le salaire, c'est un élément de confrontation, c'est un élément qui se détermine dans un rapport de force qui s'établit, non pas d'une manière, on va dire, décentralisé, mais beaucoup plus dans ce qui se passe dans les relations à l'intérieur d'une entreprise.
Et on va évidemment évoquer le fait de discuter au niveau des secteurs, au niveau des branches également. Mais Rodolphe Delacroix, vous qui êtes un homme de terrain, puisque vous conseillez des entreprises, vous êtes directeur de l'activité rémunération et actionnariat salarié chez Alixio. Quel est le ressenti sur ce point-là des salaires des entreprises?
Mais les situations, vous venez de le dire, sont très contrastées. Non, on peut avoir des entreprises qui ne se sont pas encore remises de la crise et qui cumulent des problèmes d'emploi, des nécessités de baisser la masse salariale, de mettre en place des accords de performance collective, et donc qui sont dans une logique où la variable d'ajustement, le salaire, peut éviter des plans sociaux, par exemple. Mais on peut aussi être dans des situations où on a des secteurs qui n'arrivent plus à recruter, et qui sont obligés. J'entendais ce matin que dans l'hôtellerie, ils vont devoir augmenter les salaires de 9%.
6 à 9%, effectivement, c'est ce que propose l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie, le principal syndicat patronal du secteur, qui est un secteur en souffrance, en plus, avec le Covid.
Donc, il faut vraiment que le rapport de force soit très défavorable à l'entreprise ou à cette branche pour qu'elle consente d'augmenter les salaires de 6 à 9%. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le personnel pour assurer le service et donc ils perdent à la fin le chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est les deux extrêmes. Mais entre deux, nous qui travaillons plutôt pour des grandes entreprises, on a quand même l'impression d'un retour à la normale. C'est-à-dire qu'on a certes eu une baisse des rémunérations variables versées en 2021 au titre de 2020, que ce soit les bonus ou les accords d'intéressement, puisqu'elles étaient directement indexées sur le contexte économique. Mais les entreprises tendent à revenir à des pratiques de rémunération normale avec des prévisions d'augmentation pour les budgets NAO autour de 2%.
Mais des rémunérations sous quelle forme? Parce qu'il y a les salaires et il y a, comme je le disais en amorce de cette émission, les autres dispositifs. Vous en avez cité quelques-uns.
Alors, sous
quelle forme se traduisent ces rémunérations?
Les rémunérations monétaires qui restent quand même, je dois le dire, les plus importantes et les plus attendues des salariés.
Vous entendez par la prime,
le fixe,
hausse de salaire?
Le fixe et
d'accord.
Le variable. Voilà. Okay. Mais vous avez maintenant de plus en plus, et ça fait la différence pour des jeunes salariés, des formes de rémunération indirectes ou des rémunérations qui donnent du sens, parce qu'elles sont socialement responsables, par exemple, qui prennent une valeur de plus en plus forte dans l'esprit des gens, ou des rémunérations différées en termes de prévoyance, de retraite supplémentaire, etc., qui peuvent avoir un impact important pour recruter et fidéliser un certain nombre de talents ou de cadres dirigeants. Donc la panoplie des rémunérations est beaucoup plus large qu'il y a quelques années, et selon les secteurs, l'environnement concurrentiel pour attirer ou retenir des cadres ou l'environnement concurrentiel économique, oblige à activer tel ou tel levier. Donc nous, on est face à une certaine complexité et on ne peut pas répondre de manière uniforme, comme vous l'indiquez.
Mais est-ce que c'est sain, cette pluralité des rémunérations, ou est-ce que finalement une hausse des salaires, ce serait ce qu'il y a de plus souhaitable ce qu'il y a de plus simple? Ou est-ce que c'est une bonne chose, je veux dire, cette pluralité des rémunérations, des dispositifs que
j'ai
vous évoquez?
J'ai un peu l'impression qu'on fuit la
c'est,
hausse
c'est nécessaire
des
pour s'adapter aux différents secteurs, c'est ça que vous voulez nous dire?
Depuis deux ans, on a mis la prime Macron, qui est une possibilité pour les entreprises de verser jusqu'à 2000 euros en net-net. Ça, c'est du jamais vu. Bon, donc c'est quand même une forte incitation aux entreprises de verser des éléments de rémunération autres que le salaire. On a toute l'épargne salariale qui ne souffre pas de charges ni d'impositions, qui est une forte incitation aussi pour les entreprises à associer les salariés à la performance. Et vous avez enfin l'actionnariat salarié, qui est une autre façon aussi d'associer dans la durée les salariés à la vie de leur entreprise. Donc, on tourne autour du salaire, parce que quelque part, le salaire, c'est la moins bonne solution en termes de gestion pour les entreprises.
Éric Ayer, est-ce que vous partagez ce point de vue? Il faut privilégier les autres dispositifs à la hausse des salaires.
Il faut faire attention, parce que, vous voyez, on parlait de ressenti, mais il me semble, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, parce que je suis économiste, mais que globalement, on aime bien être payé tout de même à sa juste valeur. Et ce qui représente notre juste valeur, c'est plutôt un salaire, ce n'est pas une prime. Parce que, vous voyez, le salaire, il y a à la fois, vous savez que ça va être du permanent, vous allez le toucher régulièrement, et que ça va vous ouvrir des droits. Et c'est ça qui vous ouvre des droits à la retraite, c'est ça qui vous ouvre des droits au chômage, si malheureusement vous tombez au chômage. Et donc, on sait que c'est ça qui est le socle. Alors qu'une prime, globalement, on peut l'avoir une année, elle peut disparaître l'année suivante. Donc, vous voyez, si j'essaye d'être productif à la valeur payée, je vais plutôt regarder le salaire plutôt qu'une prime, parce que la prime ne veut pas dire grand-chose.
Au final, ça peut revenir au même
Sur le compte en banque, ça peut être la même chose. Effectivement, à la fin du mois, je vais toucher la même chose. Mais il y en a un qui est du sûr et qui est du durable et qui m'ouvre des droits pour l'avenir. Et un qui est que temporaire, qui est très provisoire et qui peut disparaître. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit exactement ressenti de la même manière lorsque le chef d'entreprise me propose un salaire ou plutôt une prime. Cette prime pouvant disparaître. Alors, il peut y avoir plein de formes de rémunération, ça oui, mais il ne faut pas oublier le salaire. C'est-à-dire que je pense que le salaire, c'est tout de même ce qui met dans les grilles à quelle hauteur on entre dans l'entreprise, comment j'ai progressé et je vois ma progression chaque année et surtout, je passe des paliers. Alors que si c'est avec des primes, je peux retomber très vite sur certains paliers. Donc, ça ne rassure pas. Vous voyez, il y a une théorie en économie qui s'appelle le salaire d'efficience. C'est-à-dire que je suis efficace en fonction du salaire que je paye. Ce n'est pas l'inverse. Je ne suis pas payé en fonction de ma productivité. Mais si je suis mieux payé, je serai plus productif parce que je vais considérer que globalement, on me fait un peu plus confiance et donc je vais rendre cette confiance-là. Vous voyez, si vous le faites avec des primes, ça ne fonctionne pas, cette théorie-là. Donc, je pense qu'il faut un peu des deux, mais peut-être que la nouvelle génération sera un peu plus émiettée et un peu plus autonome dans sa façon de réfléchir et de vouloir travailler. Mais aujourd'hui, le salarié et le mode salarial, c'est quand même 95% de la façon de travailler. Et donc, le salaire, c'est un marqueur. Et donc, il ne faut pas le laisser de côté, même s'il faut le compléter avec un certain nombre de dispositifs.
Denis Ferrand, vous partagez ce point de vue? On a tendance à regarder les dispositifs, à les multiplier. Rodolphe Delacroix l'a dit aussi, on fuit les salaires. Mais Éric Ayer vient de dire, il ne faut pas se détourner de cette premier objectif d'augmenter le salaire, c'est la priorité?
Oui, le référent, c'est le salaire, bien entendu. Mais là encore, quand on regarde les dispositifs, ceux-ci se développent, ceux-ci se répandent, mais des dispositifs, par exemple, d'intéressement, de participation, qui viennent apporter un complément au salaire, vont concerner à peu près la moitié des salariés dans le secteur marchand. Donc, on n'est pas là, donc c'est un peu l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on n'est pas sur un phénomène qui est généralisé. Donc oui, on déploie de plus en plus, et là, il y a la loi Pacte qui avait été votée il y a deux ans, qui essaye de promouvoir encore l'épargne salariale, mais on se rend compte que ce n'est pas des dispositifs qui sont généralisés. Ce qui rend encore plus important, effectivement, le référentiel salarial, parce que celui-ci procède véritablement, aussi d'un moment de négociation dans l'entreprise. Le salaire, c'est pas seulement la rémunération. C'est un moment aussi où on se met d'accord sur des objectifs que l'on assigne, sur des missions. Il y a de salaire qu'en fonction d'une activité qui est rendue. Donc le salaire renvoie à des signaux qui ne sont pas seulement monétaires, mais qui emportent aussi une dimension d'inclusion dans la marche générale de l'entreprise. Si en plus ça peut être complété par des éléments de participation, alors on renforce cet élément d'association à la bonne marge de l'entreprise.
Mais ces dispositifs, finalement, c'est une manière comme ça de satisfaire, même s'ils ne sont pas satisfaits toujours, les salariés, parce que Éric Ayer l'a dit, possiblement à la fin, dans le compte en banque, on s'y retrouve entre ces dispositifs et les salaires. Mais alors pourquoi pas se confronter à cette hausse des salaires? Quels sont les freins?
Alors, les freins qui vont venir sur la hausse des salaires, c'est déjà la situation en général des entreprises. Comment est-ce qu'une entreprise se projette-t-elle? Quelles sont ses marges de manœuvre en termes de distribution salariale? Quand on parle d'un partage de la valeur ajoutée, c'est bien la rémunération que l'on va avoir d'un côté pour le travail et l'autre pour le capital. La rémunération du capital, d'ailleurs, l'essentiel, c'est pas pour engraisser des fonctionnaires, hein, c'est pas ça du tout. Des actionnaires, pardon. C'est, pardon pour le lapsus. C'est plutôt pour faire de l'investissement. Ce qui l'affectation première des résultats d'une entreprise, c'est sa capacité à se projeter au travers des investissements qu'elle va consacrer. Donc c'est un équilibre qui est à trouver à l'intérieur d'une entreprise. C'est ça le principal frein que vous pouvez avoir dans une entreprise pour la progression des salaires. Quel équilibre je fais entre ma rémunération immédiate du facteur travail et puis la construction de ma capacité à me projeter au travers de mon investissement.
Rodolphe Delacroix, est-ce que les redistributions se font équitablement des richesses de l'entreprise? Vous avez cité les actionnaires. Il y a la question d'une instauration d'un dividende partagé. Qu'en pensez-vous? 51 milliards d'euros de dividendes vont être versés aux actionnaires cette année, après donc cette année 2020 qu'il faut oublier, vous avez dit Éric Ayer. C'est 22% de hausse par rapport à l'an dernier. Qu'en pensez-vous?
Non, mais la question du dividende nous renvoie à celui du dividende salarial. Finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à créer une forme de lien entre la décision dans les grandes entreprises de verser des dividendes pour les actionnaires s'il n'y a pas eu de décision de verser de la participation ou de l'intéressement? Je pense que ça pourrait être une piste féconde de réflexion dans la mesure où il s'agit de rémunérer la richesse créée. Et la richesse créée, elle résulte autant de l'apport de fonds des actionnaires que que du travail des salariés. Mais je dirais, en France, on est quand même relativement bien outillé en la matière avec l'intéressement, la participation, l'actionnariat salarié. Le problème, c'est que dans les grandes entreprises, on a tendance à avoir tout. Des bons salaires supérieurs à la médiane du marché, des rémunérations variables liées à la performance, de l'intéressement, de la participation de l'actionnariat salarié. Le problème, c'est dans les petites entreprises. C'est que la loi Pacte est assez, dans son principe, tout à fait bon, mais nous n'arrivons pas, d'une certaine manière, à faire en sorte que le partage de la valeur arrive jusque dans les petites entreprises. Et je pense que le seuil de 50 devrait être amené à 11 salariés et que l'on devrait commencer à avoir des formules d'association au capital dans les petites entreprises. Et il faudrait simplifier les dispositifs pour qu'ils soient mis en œuvre très facilement dans ces entreprises. Peut-être avec l'aide des branches, enfin il y a des choses à faire. Parce que la marge de l'employeur dont vous parlez pour distribuer des salaires supplémentaires dans les petites entreprises n'est pas aussi extensive qu'on veut bien le croire. Et donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire, quand je parle de fuite vers le salaire, c'est par rapport... Pourquoi n'augmente-t-on pas le SMIC, par exemple? On n'augmente pas le SMIC parce qu'on craint un impact sur le chômage. Pour autant, ça serait une solution d'évidence. Mais on ne le fait plus. Là, je parle devant des économistes. Peut-être que je m'avance un peu.
Et vous tournez vers Éric Ayer, j'ai posé la question.
J'avais compris qu'il y avait quand même un risque à trop augmenter le SMIC, ce qui pourrait être la première des solutions. Mais ça n'est pas ce que j'ai compris.
Faut-il augmenter le SMIC, Éric Ayer? C'est une des demandes des syndicats qui manifestaient aujourd'hui.
Le problème du salaire, c'est que c'est son ambivalence. C'est à la fois une notion de demande et une notion de coût pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, augmenter le salaire, c'est super, ça donne du pouvoir d'achat aux salariés, etc. Et donc, on pourrait dire, très bien, ça va faire de la consommation et donc de l'activité. Mais c'est aussi une notion de coût pour l'entreprise. Et donc, il y a l'aspect, on serait en économie fermée, enfin, on serait seul. Bon, c'est pas grave, on pourrait augmenter les salaires, ça va nourrir la demande intérieure, et donc tout reste là. Le problème, donc, c'est que font nos partenaires? Il est évident que si on est les seuls à augmenter très fortement les salaires, alors que les autres sont plutôt en train de le baisser, donc notamment le SMIC, on va bien voir que notre consommation va partir à l'étranger parce qu'ils vont avoir des coûts plus bas. Et puisqu'on recherche quand même le prix les plus faibles, donc toute activité va partir. Et c'est en cela où une augmentation du SMIC peut être nuisible à l'emploi. Mais encore une fois, c'est une notion relative. Donc du coup, c'est aussi là où la conjoncture peut être importante. Est-ce qu'aujourd'hui, on souffre d'une insuffisance de la demande ou d'une insuffisance de l'offre? Si on veut stimuler la demande, parce qu'on a beaucoup d'offres inemployées, bah alors là, une augmentation du SMIC peut être une solution. Si c'est plutôt l'offre qu'on veut essayer d'aider, alors l'augmentation du SMIC n'en est pas. Donc, c'est là où c'est compliqué. Mmh. Mais on voit que c'est la seule porte d'entrée, le SMIC, pour le gouvernement, quelque part, pour essayer de stimuler les autres salaires. C'est-à-dire que vous voulez stimuler les salaires, vous voyez, c'est, vous êtes bien en mal quand vous êtes au gouvernement. Et donc, le SMIC est le seul point d'ancrage dans les salaires, parce qu'on peut penser que si on augmente le SMIC, les autres salaires vont suivre. Bon, sauf que dans les faits, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas cet effet de diffusion, et donc il y a un peu un écrasement des salaires. Donc moi, pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans un moment où beaucoup de pays sont en train de revaloriser le SMIC, d'accord ? Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'être dans cette mouvance et de le faire un peu comme eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être le seul à l'augmenter, parce qu'effectivement, il y a des pertes de compétitivité, ça serait nuisible à l'emploi. Sinon, c'est une des solutions, si on le fait de façon coordonnée avec les autres pays.
Alors, la concertation, c'est nécessaire. Et la concertation, même, c'est ce que j'allais dire, entre les petites entreprises et les grandes entreprises, ça rejoint ce que disait Rodolphe Delacroix. Augmenter le SMIC n'est pas une manière de parvenir à un meilleur rééquilibrage justement question.
C'est une façon d'intervenir sur toutes les branches d'un coup, d'accord. Et donc dire bon voilà, allez, on essaie de d'impulser une hausse, mais attention, effectivement, il y a des entreprises qui sont en difficulté, donc ça les mettrait en péril. Il y a des secteurs qui n'ont pas besoin de cette augmentation du SMIC et elles arrivent bien à vivre avec et tout le monde est content. D'autres qui, au contraire, en aurait besoin. Donc, c'est sûr que des accords de branches seraient un peu plus intéressants. Et qu'on mette des minimums de branches, ça serait bien plus intéressant parce que, entreprise par entreprise, c'est pas possible. C'est-à-dire que si on laisse les entreprises décider, eh ben, elles vont dire, ah ben, je peux pas le faire parce que si je le fais et que mes concurrents ne le font pas, je vais perdre tous les marchés. Donc, du coup, je vais être obligé de vous licencier. Donc, du coup, on le fait pas. Et donc, il faut le faire au niveau de la branche. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, ce qui manque, c'est des accords de branches avec des minimums de branches qui pourraient être différents selon les branches.
De différents. Hausse du salaire minimum ou accord de branche, quelle est la priorité ?
C'est plus on s'approche de l'espace décentralisé, mieux c'est. Et d'une certaine manière, l'accord de branche, à défaut d'accord d'entreprise, enfin le premier espace où se fait la négociation, c'est dans l'entreprise. Si cette parce que dans une petite entreprise, c'est compliqué, si ce dialogue ne peut pas se faire, à ce moment-là, la branche prend un rôle tout à fait déterminant. Mais c'est vrai que l'État n'a pas la main pour intervenir, pour dire dans les entreprises, les salaires doivent être augmentés. Éventuellement, il peut le faire effectivement par le seul mécanisme qui est à sa main, qui est l'évolution du SMIC, mais assez rapidement, ses effets vont s'arrêter en termes d'effet de propagation dans l'ensemble de l'échelle des salaires. Donc la décentralisation de la négociation salariale est le levier, me semble-t-il, plus efficace.
L'idée, en fait, c'est un peu plus responsabiliser les entreprises et déresponsabiliser l'État, qui a quand même beaucoup mis la main à la pâte aussi avec, on l'a dit, 100 milliards d'euros d'aide avec la crise du Covid aux entreprises.
En fait, c'est responsabiliser, non pas l'entreprise, mais responsabiliser l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise.
C'est ce que je
voulais dire. C'est bien ça qui est en jeu. Et c'est vrai qu'on est dans un moment aussi où, comme vous rappelez, la situation de 2000, il y a eu les aides aux entreprises, mais il y a eu globalement l'ensemble des, à la fois des salariés, des entreprises qui ont été aidées, des ménages également. On est dans une situation où l'année dernière, il n'y a effectivement pas eu de progression du pouvoir d'achat, mais dans un contexte où il y avait un recul d'activité de 8%. Et donc, on a eu une protection générale des revenus, ce qui ne crée pas de progression du pouvoir d'achat et donc va donner un peu ce sentiment de stagnation du revenu qui est vrai, mais dans un contexte où même si on fait 6% de croissance cette année, on n'est pas encore revenu au niveau d'activité que l'on avait préalablement au Covid. Donc on a eu jusqu'à présent une préservation de la perte de revenus et donc ça ne crée pas un sentiment de progression du revenu, mais pour autant, eh bien, si le choc économique avait été réparti, équitablement réparti entre salariés, entreprises et perte pour l'État, eh bien à ce moment-là, on aurait connu un recul de pouvoir d'achat. Donc ça, c'est très difficile à vendre hein, comme situation. On a une préservation du revenu, alors que normalement, on aurait dû avoir une perte du revenu.
Rodolphe Delacroix, je pense que là, vous allez abonder dans le sens des accords de branche, parce que vous avez publié une tribune avec Jean-Claude Mailly, l'ancien secrétaire général de Force ouvrière, et vous militez pour, justement, des accords au niveau des branches pour des augmentations salariales.
C'est évident que c'est là que ça se joue. Et toutes les mesures d'exonération des charges des cotisations sociales par l'État pourraient être quand même une incitation pour revenir dessus si les branches ne parviennent pas, parce qu'il y a quand même des branches qui sont assez rétive à la négociation collective. En fait, on en revient à la négociation collective au sein de la branche ou au niveau des entreprises. Moi, j'accompagne, on accompagne beaucoup d'entreprises dans le dialogue social. Mmh. Et en fait, on constate des situations de blocage qui sont assez faciles, enfin, pas facilement, mais des situations de blocage qu'on peut contourner dès lors qu'on l'on prend l'initiative de faire la pédagogie des enjeux auprès des partenaires sociaux.
C'est-à-dire ?
Alors, expliquer quelle est finalement la situation économique de leur entreprise dans leur secteur d'activité pour justifier pourquoi l'entreprise ne peut pas accorder autant que les syndicats attendent. Ça paraît tout bête, ce que je dis, mais je suis toujours frappé que...
Ça revient quand même encore cette notion d'image, de communication.
Voilà, la communication entre partenaires sociaux dans des entités économiques pour lesquelles, finalement, ils ne se comprennent pas. Mais ils ne se comprennent pas pour des choses qu'on peut très facilement dépasser. Alors, au niveau interprofessionnel, etc., c'est très politique et c'est des postures. On ne va pas leur apprendre leur métier. Mais au niveau des entreprises, je pense qu'on pourrait quand même améliorer le dialogue social. Dans la mesure où il y a de l'incompréhension que je constate quand même. Et quand on parle beaucoup avec les DRH ou même les directeurs généraux d'entreprises de 2000, 3000 salariés, on comprend bien là où ça coince, vous voyez, et où ça peut se lever.
Éric Ayer, vous partagez ce point de vue parce qu'on parle depuis le début de cette émission, faut-il augmenter les salaires? Vous nous dites que finalement, ça ne va pas si mal et que les salaires augmentent en France. Et malgré tout, je pense que ce n'est pas du tout le sentiment de la population. Il y a cette journée de manifestation aujourd'hui.
Ouais,
c'est symbolique.
Non, mais c'est symbolique.
De ce problème de dialogue social aujourd'hui en France?
En grande partie, oui, parce que, enfin, encore une fois, on a parlé beaucoup de macroéconomie, enfin, surtout moi, et Denis en partie aussi. C'est-à-dire que, donc, effectivement, quand on regarde les chiffres macroéconomiques, on peut dire que les salaires ont progressé, mais au sein d'une entreprise, il y a des salaires qui progressent plus vite que les autres, et comment justifier cela? Et après, s'il n'y a pas un bon dialogue social dans l'entreprise, si les salariés ne participent pas au conseil d'administration ou des points comme ça, on peut aussi, y aller d'une théorie du complot en disant bah tiens c'est eux qui se redistribuent l'intégralité des profits et donc son salaire est 100 fois supérieur au mien. Comment on peut justifier des écarts de salaire au sein d'une même entreprise qui va de 1 à 100? Vous voyez, quand on pose la question, lorsque les sociologues posent des questions, quel est le pourcentage d'écart qui serait acceptable selon vous dans une entreprise? En gros, ça va de 1 à 4. On dit au-delà de 4, s'il y a quelqu'un qui gagne 4 fois plus que le plus bas salaire, c'est pas acceptable. Et donc, c'est ça les critères. En fait, quand on regarde dans les entreprises, dans la majorité, ça va plutôt de 1 à 100, voire de temps en temps dans les entreprises, de 1 à 150. Donc, vous voyez que entre la réalité qu'il y a sur le terrain, de qu'on voit les chiffres, on dit, mais comment on peut expliquer des écarts de salaire aussi importants dans les entreprises? Vous voyez, si on dit, mais attention, il est plus productif, on dit, mais comment tu mesures cela? Donc, effectivement, les salaires progressent, d'accord, tout le monde progresse, mais il y a des écarts au sein de la même entreprise qui sont quand même difficilement justifiables entre nous.
Enfin, c'est encore
personne ne peut être 100 fois plus productif.
C'est encore la question de la redistribution des richesses.
C'est juste cela. C'est en dire, mais tiens, je n'ai pas le même pouvoir d'achat que mon supérieur. Enfin, on est dans deux mondes différents, ça va pas.
Rodolphe de la Croix. L'avocat du diable, mais le salaire, c'est quand même le prix que le marché accorde aux compétences qu'il est prêt à payer. Et donc, il y a un certain nombre de compétences rares liées à la responsabilité, au leadership, etc., qui justifient des écarts salariaux peut-être plus importants que de 1 à 4. Seulement, la pédagogie du mécanisme de formation des salaires, comme tout autre prix, n'est pas très bien faite. Et pas très comprise par les salariés. Si on était dans un système d'écart de 1 à 4, on n'aurait certainement pas, je pense, les leaders qui font que certaines entreprises réussissent des performances exceptionnelles.
Oui, on peut Eric entendre Ayer, cela, mais on voit bien que les salariés ne peuvent pas l'entendre. Parce que, en fait, OK, peut-être que cette personne-là prend plus de décisions et plus de risques, mais en fait, elle ne prend pas plus de risques. Parce qu'elles ont aussi des parachutes dorés. Donc, si elles font mal leur boulot, elles ont un parachute doré gigantesque et elles sont réembauchées chez le concurrent. Et en fait, qui décide de la rémunération de ces gens? Ce n'est pas le marché. C'est à l'intérieur, tout le monde, d'un conseil d'administration et chaque grand patron et dans le conseil d'administration des autres entreprises et décident entre eux. Donc, c'est un mini-marché qui sont quasiment en monopole et qui décident. Donc là, bien sûr que ça devient des écarts qui sont bien trop importants pour que ça soit justifié d'une raison de... C'est pas la durée du travail qui fait la différence, c'est pas la pénibilité qui fait la différence et c'est pas la prise de risque non plus. Alors, est-ce que bien sûr 4 est sans doute un peu faible, mais 150 c'est sans doute un peu trop fort.
Compétitivité et inégalité. Merci Eric Heyer pour ce mot de la fin, économiste et directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, enseignant à Sciences Po Paris. Merci Rodolphe Delacroix, directeur de l'activité rémunération et actionnariat salarié chez Alixio, et merci Denis Ferrand, économiste, directeur général de l'Institut d'études économiques Rexicode. Rendez-vous sur RFI.fr pour réécouter ce débat du jour.
Tous les jours, accent de